le joue pour toi. Il est terrible, cette terre-là. J'espère que tu aimes, c'est assez beau, non? C'est le requiem pour un con. Ouais.
Bonjour, monsieur Utopia.
Bonjour.
Bon, je vois que vous êtes en forme, vous êtes en joie. Eh bien, écoutez, j'en suis ravie. Et donc, j'aimerais bien que vous nous parliez justement de votre programmation, parce que là arrive l'été, c'est le moment ou jamais d'aller au cinéma, puisque en plus de ça, on a la clim. Et donc, je crois qu'il y aura de très beaux films, donc je vous écoute.
Ah, j'espère qu'il y a d'autres raisons d'aller au cinéma que la climatisation
sans doute
des salles.
Sans doute.
Sinon, on est quand même plus au frais dans les rayons surgelés des supermarchés. Mais oui, après, traditionnellement, c'est vrai que l'été, c'est pas la période, a fortiori avec les derniers soubresauts là, de la Coupe du Monde, c'est pas le moment où les distributeurs prennent le plus de risques sur les sorties de films. C'est pas là où ils positionnent les films sur lesquels il y a le plus d'enjeux. Et les mois de juillet et août, c'est un petit peu les vaches maigres en termes de programmation. Alors nous, c'est vrai qu'à Utopia, on a de la chance de ce point de vue-là, puisqu'on programme les films en général après les autres. Et on a la chance, nous, de voir arriver maintenant les films qui sont sortis au mois de mai, au mois de juin, dans les salles du centre-ville. Ça, c'est une chose. Donc, il y a pas mal de films qui nous arrivent à ce moment-là. Et surtout, il y a des très, très belles propositions de contre-programmation, de fait. Soit des distributeurs qui se disent, tiens, justement, l'été, il n'y a pas grand-chose qui sort. On va se démarquer, on va sortir des choses intéressantes. Et puis des propositions inattendues qui nous sont faites, ou du moins que nous, on peut solliciter. Je pense notamment à un film qui s'appelle « L'État contre Mandela et les autres », qui est distribué par UFO et qui doit sortir le 17 octobre 2018. Donc, c'est pas demain, c'est vraiment après-demain. Mmh. Et il se trouve que ce film, L'État contre Mandela et les autres, était présenté au Festival de Cannes, était en sélection, mais hors compétition, sélection officielle. Qu'on a découvert ça, on a vraiment été bluffé par ce film et que ça faisait un moment que c'était pas arrivé, mais on s'est dit, tiens, on va proposer aux distributeurs de faire une pré-sortie. C'est pas vraiment juste une avant-première, un one-shot, on lance le film une fois, on fait une projection, on voit ce que ça donne. C'est vraiment se dire, on le lance tout le mois de juillet à Utopia, on lui met le nombre de séances qu'il faut, enfin on fait une vraie pré-sortie et on fait le pari que notre enthousiasme va être partagé par les spectateurs. Que pour un spectateur qui va venir, puisque les gens vont venir, le film n'existe pas encore vraiment, il n'y a pas de promo, c'est un film dont on va beaucoup entendre parler à la rentrée, mais pour l'instant il n'existe pas vraiment, si vous voulez. Et donc nous on fait ce pari là que clairement le bouche à oreille, on peut commencer à donner une vie à ce film et à faire en sorte que sa véritable sortie, donc au mois d'octobre, il ressortira à Montpellier, il ressortira, j'allais dire, dans le reste du monde, en tout cas dans le reste de la France à ce moment-là. Et il aura déjà une petite existence et il y aura eu un bruit parce que ce film réellement le mérite. C'est un objet tout à fait fascinant, tout à fait enthousiasmant. Donc L'État contre Mandela et les autres, c'est une co-réalisation de deux réalisateurs, Nicolas Champeau qui est à l'origine du projet. L'idée, si vous voulez, c'est que ça raconte le procès qui a eu lieu en Afrique du Sud, le procès qui concernait donc Nelson Mandela, et on s'en souvient peu, mais ils étaient une dizaine d'accusés sur les bancs de l'accusation. Et très récemment, donc l'INA a restauré les enregistrements sonores, toutes les attentes de ce procès, et à partir de ce matériau, il n'y avait aucune image, à partir de ce matériau, ces deux réalisateurs ont concocté un vrai film, un film qui est à la fois un film documentaire et j'oserais dire un film de fiction, puisqu'il y a un énorme travail de recréation, à la fois en utilisant des images d'archives, à la fois en interrogeant aujourd'hui les acteurs de ce moment incroyable de notre histoire récente, vraiment, et en confiant à un dessinateur néerlandais qui fait un travail magnifique, toute une partie de recréation de l'histoire en animation, on dirait du fusain animé, c'est vraiment à tomber par terre. Tout ça mis ensemble, ça raconte quelque chose d'absolument enthousiasmant, au-delà du procès lui-même qui est un moment important donc, de notre histoire, vraiment j'insiste là-dessus. C'est un film qui très largement embrasse les notions d'engagement, de rébellion et jusqu'à quel point finalement un groupe d'hommes peut décider de passer outre la loi à partir du moment où ils estiment que c'est juste. C'est vraiment des thèmes qui sont récurrents et très souvent on entend dans les débats publics. Alors en général, c'est beaucoup lié à la résistance ou à des moments de l'histoire française comme ça où on dit ah oui, mais alors si j'avais été en 1940, qu'est-ce que j'aurais fait ? Eh ben voilà, là on est à un moment dans l'histoire qui est beaucoup plus proche et où finalement la question s'est reposée et c'est des questions qui reviennent. Et le film ne fait pas l'économie de ça. Le film interroge également aujourd'hui notre histoire, nos problématiques, alors pas à l'échelle franco-française mais à l'échelle mondiale. C'est absolument enthousiasmant, passionnant. Nous on n'en est pas revenu et le film sera projeté donc entre le 4 et le 31 juillet chez nous et c'est vraiment
c'est ce que je vois oui
mais ah ouais ouais non mais bah vraiment écoutez, on n'en est pas revenu quoi on est absolument enthousiaste.
Il dure combien de temps à peu près?
C'est pas long, c'est 1h45, oui, c'est une durée de film normale. D'accord. Et c'est et vraiment et ce qui est génial c'est que alors je dis pas qu'on peut y aller en famille avec des gamins de 5 ans mais à partir de 10-12 ans je pense même que c'est important pour le coup, sans en faire un objet de, comment dire,
d'éducation, d'éducation.
Il peut avoir cette vertu-là. On a beaucoup discuté avec les réalisateurs, et notamment un des deux co-réalisateurs qu'on aime beaucoup, qui s'appelle Gilles Porte. Oui, c'est vrai, j'ai parlé du premier, j'ai parlé de Nicolas Champeau, mais le co-réalisateur, c'est Gilles Porte, que peut-être les auditeurs connaissent puisqu'il est chef opérateur de son métier, c'est un chef opérateur génial et par ailleurs il a réalisé un ou deux documentaires très beaux à base de dessins d'enfants mais surtout il est connu pour avoir co-réalisé avec Yolande Moreau il y a maintenant une dizaine d'années, peut-être un poil plus, un film sublime qui s'appelait Quand la mer monte.
Oui, j'adore.
Voilà, qui était d'une beauté, d'une poésie incroyable.
Oui,
et ce
vrai.
Type, donc Gilles Porte, était à la fois à l'image et à la co-réalisation
de ce film.
Et vraiment, voilà, on en a beaucoup parlé avec Gilles Porte et avec Nicolas Champeau. Et l'idée, c'est vraiment d'amener, quand le film sortira, là je ne parle pas de cet été, mais je parle de l'automne, d'amener le film à la fois dans les salles de cinéma, l'amener dans les lycées, ça nous paraît être à la fois une évidence et une importance capitale.
D'accord, bah écoutez, là, on n'a qu'une seule chose à faire, se précipiter.
J'espère
donc,
bien.
Ah bah oui, parce que c'est vrai que ça donne envie. Alors donc, c'est du 4 au 31 juillet, donc on a le temps.
Tout à fait, mais pas tant que ça, ça va passer vite. Et surtout, ce qui serait génial, c'est que nous, notre pari, c'est ça, c'est que le film n'existant pas encore médiatiquement, qu'il y ait suffisamment de personnes à y aller au début, au tout début, à partir du 4, parce que je suis absolument convaincu que pour une personne qui viendra rapidement voir le film, il y en a 10 autres facilement. D'accord. Qui reviendront derrière et que le film peut vraiment fonctionner comme ça.
Bah écoutez, moi je vous le souhaite en tout cas.
Ouais.
Non mais je serai la première à y aller d'ailleurs.
On vous attend.
On va se revoir là très, très prochainement. Bon alors ça vous l'avez bien noté, donc c'est L'État contre Mandela et les autres. Et donc que vous pouvez le voir du 4 au 31 juillet à l'Utopia. Alors vous me parlez maintenant de quoi ? De l'Empire de la Perfection, c'est ça ? Ça vous dit ?
Par exemple, alors c'est on va faire un petit saut, on va faire un saut, c'est à la fois qualitatif, thématique, peut-être que la seule chose que ces deux films vont avoir en commun, c'est la forme documentaire, et encore, ces deux formes documentaires qui n'ont strictement rien à voir l'une avec l'autre. John McEnroe, L'Empire de la Perfection.
Et voilà, c'est ça, L'Empire de la Perfection, ça se passe sur un court de tennis.
Ça se passe, alors c'est un film gigogne un petit peu, c'est un film qui à la fois va titiller l'esprit un peu mal fichu des cinéphiles, des cinéphiles bruts, des gens qui interrogent l'histoire du cinéma, qui s'intéressent à la forme du cinéma. Le film, ce documentaire est né de l'intérêt du réalisateur, de Julien Farfaux, j'espère que je ne dis pas de bêtises, pour des films d'éducation. C'est-à-dire que dans les années 60, que je ne dise pas de bêtises, jusqu'au début des années 80...
C'est Julien Farfaux.
Jusqu'au début des années 80, donc, il y a des gens qui, pour les trucs de... Comment on appelle ça ? Là où on enseigne le sport aux jeunes...
Les universités de sport.
Donc on filmait en fait les joueurs de tennis, on les interrogeait et on les filmait, on essayait de décrypter leurs gestes et leurs postures. Il y avait un truc très éducatif et d'études. Et en fait, au début de ce documentaire, il y a une recherche sur un cinéaste, quelqu'un qui réellement a passé sa vie derrière les cours de tennis, notamment à Roland-Garros, a filmé pas les matchs, à filmer les gestes, à filmer les tennismen. Mmh. Et à interroger ce qui faisait un champion, ce qui ne faisait pas un champion, ce qui faisait que quelqu'un était meilleur qu'un autre, etc. Et très vite, en fait, le film, donc à ce moment-là du documentaire, là je parle de l'Empire de la Perfection, on va vous citer Godard, on va vous citer Serge Danet, on va vous citer comme ça des grands penseurs de l'image et du cinéma. Ouais. Et en fait, très vite, dans ces archives qui sont présentées, le réalisateur se rend compte qu'il y a plein de tennismen qui sont présentés et il y a une pile invraisemblable de bobines qui concernent exclusivement John McEnroe. Là, il se dit, mais quand même, faut faire quelque chose. On va regarder ce qu'il y a.
Pourquoi
McEnroe?
Ben oui.
Et de fait, le film change à ce moment-là un petit peu de sujet et s'intéresse à ce joueur et à sa personnalité. Alors moi, j'y connais rien au tennis, mais vraiment rien du tout. Il se trouve que peut-être quand j'étais gamin, donc dans les années 70-80, je regardais de loin en loin des matchs de tennis. Ce documentaire a réussi, c'est invraisemblable, à me passionner à un moment donné pour un geste, pour quelqu'un dont on découvre finalement que, à la différence de quasiment tous les autres tennismen, il a à la fois une élégance de jeu. Ça me fait bizarre de dire ça, j'ai l'impression d'être sur une chaîne de sport, vous voyez. Mais vraiment, il y a une élégance, il y a une façon, il y a une touchée de balle, et il y a effectivement cette idée de la perfection. Et ce joueur de tennis, visiblement, était, j'ose pas dire un grand malade, mais en tout cas, quelqu'un d'éminemment perfectionniste, qui était connu pour ses coups de gueule sur les courts de tennis. Donc moi, ça, c'est le souvenir que j'en avais. Et en fait, on se rend compte que pourquoi ces coups de gueule, c'est que ce type qui avait un souci maniaque de la perfection dans son jeu ne supportait pas que les gens qui étaient autour de lui et qui étaient censés juger son travail n'aient pas cette même perfection dans leur approche et dans leur jugement. Ouais. Et toutes ces engueulades, toutes ces prises de bec, tous ces machins ne concernent que ce point précis.
D'accord.
Et donc tout le film est concentré sur ce personnage qui est fascinant, qui est inquiétant, qui est beau, qui est vraiment beau. Et arrive à vous emmener dans une espèce de poésie du tennis. Enfin, c'est assez incroyable.
C'est pour ça que l'empire de la perfection, ça fait penser aussi à l'empire des sens.
Ah, mais totalement.
Et donc, la perfection étant les sens, et on n'est pas loin, finalement.
On est en plein dedans. Et ça nous amène, donc, à une espèce de climax. Ce type, donc, était numéro un mondial pendant des années, etc. Et le climax du film étant la finale de Roland-Garros qu'il dispute contre Ivan Lendl. Le film vous en fait un digest d'une demi-heure à peu près à la fin. C'est un film qui a un match qui a duré des heures, et sincèrement, on connaît l'issue du match, et pendant toute la fin du film, on est crispé à son fauteuil, on trépigne, il y a un suspense, il y a une tension qui monte, c'est absolument c'est renversant, et le cinéma arrive à faire passer quelque chose d'inédit, en tout cas pour moi, dans la représentation du sport. Voilà, je suis ni sportif, ni très intéressé à tout ça, et j'avoue que j'ai été à la fois charmé, à la fois conquis.
C'est ça, il y a une chorégraphie
et passionné.
Chorégraphique.
Et sincèrement, c'est drôle.
Ah,
c'est
oui.
vraiment
ah,
très,
oui,
très drôle.
Ah oui, d'accord. Bon, bah écoutez, c'est formidable. En tout cas, là, vous allez avoir tous les gens qui font du tennis.
Alors, il se trouve qu'on a calé, du coup, une avant-première du film le 1er juillet, dimanche 1er juillet à 14h15.
D'accord.
Si tout va bien, on devrait recevoir quelques lots à faire gagner. On fera un petit quiz tennis et cinéma. Mais surtout, on a décidé de caler cette séance à ce moment-là précis, puisque le lendemain démarre le tournoi de Wimbledon.
Ah,
et
voilà,
on
d'accord.
s'est dit qu'il valait peut-être mieux se donner un petit peu des chances qu'il soit vu avant. Puisque pour le coup, moi je suis pas trop le sport, mais j'ai quand même pas mal de gens qui suivent le sport dans ma famille. Je sais qu'à partir du 2, ça sera très difficile de faire venir des aficionados de tennis au cinéma.
Ah bon, oui, ils seront devant leur télévision, d'accord.
Tout à fait.
Bon, en tout cas, oui, John McEnroe, ça me paraît intéressant de voir cette personnalité qu'on connaît effectivement un peu sous ses travers, mais maintenant on a les dessous de l'affaire. Bon,
absolument, voilà. Ça, sachant que je finis juste là-dessus, le film sortira en étant sorti national à partir du 11 juillet, et donc normalement
à partir du 11.
Wimbledon sera terminé.
D'accord. Et vous faites une avant-première
le 1er juillet.
Le dimanche 1er juillet à 14h15.
Voilà,
ah,
on
oui,
vous bah... attend pour cette séance.
Bah, écoutez, pourquoi pas. J'ai jamais fait de tennis parce que j'ai essayé, mais ma raquette était trouée. Alors j'ai dit, on va arrêter là, stop. Voilà. Mais j'admire, quand c'est bien fait, c'est beau, mais bon, voilà. Alors là aussi, il y a des bandes sonores intéressantes quand on...
C'est très étonnant.
Tout est possible.
Ah, petit détail, la bande originale du film, il y a une musique étonnante qui accompagne ce film, qui est composé et interprété par Serge Tessoguet, donc ex-guitariste de Noir Désir, et c'est vraiment magnifique.
Et je vois que la voix est de Mathieu Amalric, c'est pas mal non plus.
Absolument,
ça, alors ne serait-ce que pour ça, on y va.
Ce qui ajoute au petit côté peu humoristique et distancié du commentaire, c'est adorable.
Pour moi, Amalric, c'est un des meilleurs comédiens français actuellement. Donc, ne serait-ce que pour lui, on y va. Alors, merci infiniment. Ça m'étonnerait que les gens n'accrochent pas, parce que voilà deux films, non seulement qui ont l'air pas mal, mais il faut dire aussi, vous savez très très bien en parler. Bon, alors, voyons voir. Une année polaire, ça c'est aussi pour avoir froid.
Alors, une année polaire, effectivement, vu la canicule qui s'annonce, c'est peut-être pas un mauvais choix pour aller au cinéma.
D'accord.
Une année polaire, c'est absolument adorable. Ça fait partie de ces films qui sont sortis là, ces dernières semaines qu'on récupère à Utopia. C'est une année polaire, contre toute attente. Et vraiment, le film ne laisse pas une seconde présager ça, mais c'est également un documentaire et on n'en revient pas. Le réalisateur, c'est un réalisateur français, il s'appelle Samuel Collardet. On l'avait découvert il y a quelques années pour un film, un documentaire déjà, qui s'appelait L'Apprenti et dont on sortait en se demandant sincèrement, est-ce que c'est vraiment un documentaire que j'ai vu ? Tellement l'image est belle, tellement c'est mis en scène, tellement il raconte des choses, tellement il y a une tension dramatique. Et là, sur une année polaire, c'est exactement la même chose. Le sujet est totalement différent, mais il y a cette même intensité qui fait vraiment, sincèrement, douter de l'aspect documentaire du film.
Documentaire ou fiction.
Ah, mais c'est juste incroyable. Mm-hmm. Donc, parce que le film est à la fois une narration très linéaire et raconte quelque chose de... normalement un documentaire c'est imprévisible et là c'est impossible de se dire que c'est pas écrit quoi, tellement l'histoire est formidable. L'histoire vous cloue au fauteuil, c'est un film à voir en famille.
Mais c'est parti à partir de l'histoire qui ont fait en sorte qu'il a pu créer
c'est un film, pardon, c'est un film qui est né du sujet, c'est-à-dire que régulièrement on envoie, donc ça part du, j'essaie de pas vous dire de bêtises, ça part du Danemark et on envoie des instituteurs au Groenland.
D'accord.
Et donc ce sont des jeunes instituteurs volontaires qu'on envoie et qui partent enseigner dans des petits villages à des enfants dont ils ne parlent pas la langue, dont ils ne partagent quasiment pas la culture. Ils ont vraiment juste un semblant de nationalité en commun en fait. Et donc Samuel Collardet est parti avec un jeune qui partait enseigner, et c'est Être et Avoir, je ne sais pas si vous vous souvenez de ce documentaire, c'est Être et Avoir raconté au Groenland.
D'accord.
Il arrive, on lui dit, oui, ce serait mieux, vous devriez aller dans telle ville, c'est quand même un peu plus grand, vous devriez machin. Et lui, non, lui, il choisit d'aller au bout du monde, quasiment au bout de la banquise, dans un bled où il y a quoi ? Il y a tout de suite 15 maisons, donc 15 familles, et d'aller vraiment, de faire tout ce qu'on lui des conseils de faire finalement, d'aller, j'ose pas dire s'enterrer, mais s'enneiger très très loin. Et c'est l'histoire de ce gars qui est frais et moulu, qui a quelques idées comme ça d'éducation, enfin quelques notions, qui va tout déconstruire, tout reconstruire au contact des enfants. C'est savoureux, c'est drôle. C'est ce gars qui essaye d'inculquer ce qu'on lui a appris à inculquer et qui se retrouve face à un mur culturel. Enfin, ça fonctionne pas, il est mis de côté, il est malheureux, il souffre, il cherche, il doute. Et puis finalement, plutôt que de faire ce qu'on lui a conseillé, c'est-à-dire de rester sur son quant à lui, sur son quant à soi, sa posture d'instituteur au-dessus et à l'écart, finalement, il va essayer de se fondre dans cette communauté. Et il va pas essayer, il va réellement se fondre dans cette communauté. Et ça devient une histoire belle de rencontre entre ce gars et ses enfants et leurs parents et cette culture. Et ça dans des paysages absolument, alors très blancs, des histoires grandioses de chasse, de pêche, un soleil, une lumière, mais à tomber par terre. Et ça finit avec sur une très longue traque, avec une tempête qui arrive au loin. Enfin, vous allez avoir peur, vous allez frissonner, vous allez vous enthousiasmer. C'est un film d'aventure vraiment, vraiment enthousiasmant. Et alors là, pour le coup, à voir en famille, mais... Ah, ça fait un bien fou, quoi.
Ah bon, bah alors on va y aller. Alors voilà encore un troisième film, donc Une année polaire de Samuel Collardet. C'est un film qui dure 1h34. Donc
oui,
c'est
très court, c'est tout à fait
court
et tout à fait gentil. Ouais.
Bah écoutez, c'est super, donc Une année polaire. Donc je récapitule les trois films qu'il faut impérativement aller voir. L'État contre Mandela, L'Empire de la perfection pour John McEnroe, pour La voix aussi d'Amalric, et puis Une année polaire, vraiment dans le silence blanc de l'hiver et des armes, c'est ça, c'est comme dirait Aragon. Bien, alors, et là, on va parler d'un film, vous me pouvez parler aussi des Rives du Destin?
Oui,
ou pas?
Alors, rapidement, les Rives du Destin, on va faire une seule séance, et on est très très heureux de recevoir le réalisateur, Monsieur Kahani, qui est un cinéaste iranien.
Bah oui, comme son nom
l'indique. Qui a travaillé avec Jafar Panahi, qui est assistant réalisateur, qui lui est exilé maintenant. Qui est maintenant exilé en France, qui ne peut plus retourner travailler en Iran.
Tout va bien, paraît-il, là-bas, non, c'est ça ?
Plus ou moins, il semblerait. Ouais, mais en tout cas, ce garçon a toujours eu la volonté de travailler sur la... C'est pas du cinéma de dénonciation, ça va vraiment vous rappeler Les Rives du Destin, ça va vous rappeler Une séparation, ça va vous rappeler vraiment ces grands films-là. De Faraday, ouais. Mmh. Et suivre le destin d'une femme qui a divorcé, qui va essayer de reconstruire sa vie, qui arrive à Téhéran, qui essaye de récupérer son gamin, qui est en butte aux tracasseries qu'essaye de lui opposer son ex-mari. C'est évidemment pas d'une gaieté folle à tout moment, mais il y a une énergie incroyable dans ce portrait. C'est un très beau portrait de femme, vraiment très très beau. Et on est vraiment ravis de recevoir donc ce réalisateur qui est malheureusement inconnu encore en France, dont les films sont pourtant assez reconnus, étaient jusque-là assez reconnus en Iran. Maintenant, c'est tout juste si on a le droit de prononcer son nom. Quoi qu'il en soit, il continue à travailler, il a des projets en cours et on est très très attentif à suivre ce réalisateur.
Très bien, bah écoutez, voilà. On va
donc suivre. C'est vraiment
le cinéma iranien, c'est intéressant.
Tout à fait.
Donc,
c'est un des cinémas les plus riches du monde. On voit bien que... Alors malheureusement, les cinéastes sont ou s'exilent ou sont contraints à des formes, je pense à Trois visages de Panahi, enfin à des formes très particulières pour arriver malgré tout à faire vivre leur cinéma dans des conditions qui sont pour le moins contrainte. Malgré tout, le cinéma iranien reste d'une richesse assez époustouflante.
Oui, c'est vrai. J'ai quelques films dont je me souviens avec bonheur. Alors, donc, un film, Les Rives du Destin, que vous pouvez voir. Il y a une séance
donc,
unique.
Une seule séance, le 5 juillet.
C'est le jeudi 5 juillet à 20h. Absolument. Donc voilà, pour ceux qui sont curieux de plein de choses, c'est le moment. C'est un film qui fait 1h15 et qui a été réalisé, semble-t-il, en 2015.
Tout à fait.
Voilà. Bien, alors, écoutez, on va parler maintenant de notre petit chouchou quand même, Miyazaki. Ah oui, comme vous m'avez dit qu'il y avait programmation Miyazaki. Et justement, le voyage, non, ça s'appelle Son voisin.
Mon voisin Totoro.
Comme par hasard, c'est justement le film que je n'ai pas vu. Alors donc, vous allez en parler. En revanche, tout à l'heure, je vous préviens, messieurs et madame les auditrices et les auditeurs, je vais parler évidemment de Miyazaki. Alors, je vous écoute.
Écoutez, Mon voisin Totoro, que dire qui n'ait déjà été dit sur Mon voisin Totoro ? Peut-être juste rappeler que ça fait 30 ans, en fait. Mon voisin Totoro a inauguré, si je ne dis pas de bêtises, les studios Ghibli.
Ah oui ?
Donc, quand Miyazaki...
C'était 1985, je crois, l'inauguration des studios Ghibli.
Donc, on est 30 ans plus tard. Mmh. Mon voisin Totoro est arrivé sur les écrans. Ça a été au Japon immédiatement un immense succès. Mmh. C'était prévu. Alors, souvent, Miyazaki, sur certains de ses films de cette époque, présente ses films comme ça. Ça devait être un moyen métrage. Et puis, je me suis dit que quand même, le sujet était pas mal et ça méritait un petit peu plus et blabli et blabla. Mmh. Mon voisin Totoro a vraiment un destin incroyable. Donc, au Japon, ça a été immédiatement un immense succès. En France, il a mis du temps à arriver. Il a d'abord été montré à la télé, il a ensuite été édité en vidéo et ensuite seulement, il est sorti au cinéma. Il n'a pas cartonné tout de suite. Par contre, c'est un film qui a une longévité absolument incroyable, qui a été remontré régulièrement, qui a été présenté et finalement, qui ne vieillit jamais, qui a un côté totalement intemporel et qui est peut-être ce qui peut arriver de mieux à un enfant pour découvrir tout à la fois le cinéma d'animation. Et,
comme tous les films un petit peu de Miyazaki aussi.
Tout à fait. Celui-là a vraiment une tonne par rapport aux autres qui sont très souvent des films beaucoup plus adultes. Miyazaki est quand même surtout connu pour ça. Il est vraiment à un moment où au tout début du studio, il va s'attacher à raconter pour les enfants une histoire d'enfant racontée à hauteur d'enfant et sans rien masquer des histoires d'adultes. C'est, pour la petite histoire, c'est à peu près à la même époque où donc son comparse des studios Ghibli, Isao Takahata, réalisera Le Tombeau des Lucioles.
Oui, magnifique.
Voilà, donc c'est vraiment, il s'attache à raconter ça, à raconter des histoires sérieuses, des histoires graves, pour des enfants sans être sans rabaisser leur point de vue, sans faire un cinéma
enfantin.
Oui, il y a pas de niaiserie, il y a pas de simplification, jamais. Mon voisin Totoro, donc très vite, ça raconte l'histoire de d'un père et de deux petites filles. Ça se passe probablement dans les années 60 ou les années 50, c'est assez indéfini, mais en tout cas, il n'y a pas de marqueur très moderne dans leur histoire. Et donc, ce père et ses deux enfants arrivent dans une petite maison à la campagne, arrivent pour s'installer. Très vite, on découvre qu'il manque quand même un personnage important dans cette famille, c'est la mère. La mère, elle est... Alors, on ne sait pas trop, et on finit par comprendre et on finit par nous expliquer qu'elle est malade, qu'elle est à l'hôpital à côté, qu'on peut aller la voir, qu'elle ne va pas revenir. Elle devait revenir, elle ne va pas revenir tout de suite. Pour les enfants, donc elles ont quoi? Elles ont tout de suite 5 et 7 ans. C'est ces deux petites filles. C'est pour la plus grande, elle doit faire bonne figure et elle doit remplacer sa mère d'une certaine façon. Et la plus petite et vit beaucoup plus mal cette séparation. Bref, ça raconte vraiment ce petit moment. Donc, ça pourrait être un film tout à fait naturaliste, tout à fait charmant, de découverte de la nature, de découverte d'un environnement et une chronique familiale. Et ça bifurque vers un merveilleux, mais un merveilleux comme avant d'autres films de Miyazaki, je pense n'en avoir jamais vu au cinéma. C'est-à-dire que on va vous raconter des histoires d'êtres merveilleux, de Totoro, c'est quoi? C'est un énorme géant, ce serait comme une espèce d'énorme nounours. Je sais pas, il n'y a pas d'équivalent en France ou en Occident, en tout cas, de représentation. Il a mi-chemin entre l'ogre, entre l'ours, entre le nounours en peluche. Il est bon vivant, il fait pousser des armes. Enfin, c'est une espèce de représentation. Et c'est vraiment l'être qui va accompagner donc ses enfants dans ce moment peut-être difficile, et qui va les protéger et qui fait vivre la nature et qui représente en plus ces arbres qui poussent.
Ah ben ça, nature, c'est
et la nature chez Miyazaki, on sait à quel point c'est important. Et donc, Mon voisin Totoro englobe tout ça. C'est à la fois enthousiasmant, c'est féerique, c'est magique, c'est très triste, ça fait très peur à certains moments, mais ça fait très peur avec des peurs d'enfants et sans, encore une fois, sans les rabaisser, mais c'est vraiment tout à fait visible par des gamins de 4-5 ans, sans difficulté. C'est-à-dire que c'est des petites angoisses résolues, c'est des petits problèmes résolus.
Et ce sont des petites douleurs qui font des petits plaisirs.
Tout à fait. Et c'est d'une intelligence, mais d'une intelligence et d'une beauté, c'est renversant.
Alors là, de toute façon, moi j'ai un a priori favorable, évidemment, parce que j'adore ce que fait Miyazaki. Donc c'est à voir en famille.
C'est à voir seul. On peut y envoyer ses enfants, enfin on peut faire mille et une choses. Pour la petite anecdote, on s'était rendu compte il y a quelques jours avec mes collègues que, là je vais vous raconter notre cuisine un petit peu interne,
allons-y.
On programme un film, on décide de reprogrammer Totoro et on se rend compte qu'on... J'ai le temps, hein.
On a toujours le temps pour parler cinéma.
On va presque pas parler cinéma. Et on se rend compte qu'on n'a pas commandé d'affiche du film. Donc Disney ressort le film pour les 30 ans, puisque Disney a racheté les droits des films des studios Ghibli. Disney ressort le film pour les 30 ans de Totoro. On le programme et là on se dit, mince, on n'a pas programmé les affiches, qu'est-ce qu'on fait? Et on se regarde, on se dit, c'est ballot quand même, on aurait dû demander aux spectateurs de les faire. Puis là, il y a un blanc dans notre discussion et on se dit mais en fait c'est pas trop tard et on a commencé. Alors juste on a mis une petite note sur le blog du cinéma, sur le site du cinéma, on a relayé ça sur la page Facebook, on a dit voilà, c'est simple, faites-nous amenez-nous votre affiche Pour la première, la reprise du film chez nous, donc le 27, à partir du 27 juin, la première séance le 27 juin, amenez-nous votre affiche. On fait un mini concours, mais improvisé, vraiment à l'arrache. Et les plus belles affiches, non seulement on les gardera au cinéma pendant toute l'exploitation du film pour annoncer le film comme on le fait avec les autres. Et on vous invite évidemment à la projection pour voir, découvrir, revoir très probablement Mon voisin Totoro. Et puis on balance ça comme ça en se disant que ouais, c'est bien le diable s'il n'y a pas une ou deux personnes quand même qui répondent à cette proposition.
Et alors ?
Je crois qu'on n'a jamais eu autant de coups de fil, autant de mails, autant de propositions. Alors, on a pour l'instant, où je vous parle, donc c'est la veille de la remise de la séance en question. On a 5 ou 6 affiches qui sont arrivées au cinéma. Je sais de sources sûres qu'il y en a encore au moins 5 ou 6 autres. Et puis je ne parle pas de toutes celles dont on ne sait pas quoi, qui ont été relayées, qui vont nous revenir. Et on sent bien que, quels que soient les âges, quelles que soient les situations, finalement, il y a Totoro est vraiment rentré dans plein de cultures familiales, en fait. Et on a donc déjà vu des affiches ou des projets d'affiches, mais de gamins qui ont 5-6 ans. Ils ont su ça, ils se sont précipités sur leur boîte de crayons de couleur et sur leurs feuilles.
C'est de tous âges, des affiches qui sont signées.
On a de grands enfants de 20-30 ans qui se sont précipités sur leurs crayons de couleur.
Enfant, c'est pas un problème d'âge.
Et pour réaliser, et quand on voit ce qu'ils sont capables de faire pour ce film, nous, on est vraiment bluffés. Et on se rend compte à quel point donc Miyazaki, pour l'ensemble de son œuvre, aura marqué les gens. Ce film, particulièrement, Mon voisin Totoro, est peut-être, je pense sincèrement, le plus important de tous les films qu'il aura réalisé, dans la trace qu'il laisse, dans la mémoire des gens.
Ah oui, d'accord. Bah, écoutez, moi qui ai déjà dans mes souvenirs vraiment quasiment beaucoup de films, et même le dernier qui était un peu particulier, mais j'en parlerai un peu plus parce que j'ai trouvé ça absolument remarquable, Le vent se lève. Donc, s'il faut se précipiter pour aller voir Mon voisin Totoro. Oui, je vois très bien comment est le personnage. C'est un espèce de gros nounours. Là, je vois très bien ses petites oreilles comme
Et qui hurle très très fort.
Ah bon, d'accord. Bah, écoutez, c'est sympa comme tout. Alors voilà une belle programmation. En tout cas, merci mille fois d'être venu pour parler de tout ça. On va
Merci de m'avoir invité encore une fois.
Non, mais c'est vrai, parce qu'en plus de ça, vraiment vous donnez envie d'aller voir tous ces films. Il n'y a qu'un cinéma qui compte finalement à Montpellier, c'est l'Utopia,
paraît-il.
Écoute les orgues, elles jouent pour toi.